France Inter.
L'invité au carré aujourd'hui,
Alain Aspect. Je suis professeur à l'Institut d'optique Université Paris-Saclay, professeur à l'École Polytechnique et directeur de recherche émérite au CNRS.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Bruxelles, octobre 1927, la photo est historique, 29 scientifiques posent pour la postérité et la liste donne le tournis. Albert Einstein, Niels Bohr, Max Planck, Paul Dirac, Werner Heisenberg et Marie Curie, entre autres. Ils participent au congrès Solvay, créé par l'industriel belge Ernest Solvay, qui réunit les meilleurs scientifiques du moment pour discuter de questions de physique de pointe. Le congrès de 1927 se distingue particulièrement car il est le théâtre d'une confrontation intellectuelle entre deux lions de la physique, Einstein et Bohr. Au cœur de leur débat, une question fondamentale, le principe d'incertitude d'Heisenberg et la nature statistique de la mécanique quantique. Einstein, tout en reconnaissant l'existence de la mécanique quantique, était convaincu qu'il devait exister des lois cachées, déterministes, permettant de connaître précisément toutes les propriétés des particules. Bohr, quant à lui, soutenait que cette vision déterministe était vaine et que la mécanique quantique, avec son caractère probabiliste, ne nécessitait pas une description complète et exacte de la position et de la vitesse d'une particule. C'est au cours de ce congrès qu'Einstein prononce sa célèbre phrase « Dieu ne joue pas au dé ». Pour lui, le hasard n'avait pas sa place au niveau le plus fondamental, mais il se heurte à l'interprétation du formalisme quantique développé par Niels Bohr. La tension intellectuelle entre les deux scientifiques est de haute intensité, chaque nouveau contre-exemple de la part d'Einstein étant systématiquement déconstruit par Bohr. Le débat entre les deux hommes durera plusieurs années, sans attirer d'ailleurs l'attention de la majorité des physiciens occupés par les succès extraordinaires de la physique quantique. Mais c'était sans compter sur celui qui est aujourd'hui notre invité et qui s'est engagé dès les années 70 dans une aventure expérimentale pour savoir qui de Bohr ou d'Einstein avait raison. Cette aventure lui vaudra le prix Nobel de physique 2022 pour avoir donné une réponse convaincante montrant que l'on devait renoncer à la vision du monde d'Albert Einstein. Alain Aspect, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Cette aventure est au cœur de votre livre « Si Einstein avait su », c'est publié aux éditions Odile Jacob, et dans lequel vous racontez ce débat donc entre les deux géants de la physique autour de la mécanique quantique. C'est l'occasion de revenir sur votre parcours de physicien, sur votre vie, pour comprendre ce qui a nourri votre passion pour la physique. Et votre histoire, Alain Aspect, commence le 15 juin 1947 à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Et voilà ce qu'on pouvait entendre ce jour-là aux actualités françaises.
Augmenter encore sa production de charbon est devenu pour la France une nécessité. Et de tous les bassins houillers de son territoire, c'est sur le bassin de Lorraine, qui renferme plus de la moitié des réserves françaises en charbon, que portera surtout cet effort. À Paris et en banlieue, les ouvriers pétroliers ont fait grève pendant plusieurs jours. Suivant leur exemple, les transporteurs ont à leur tour cessé le travail. Et devant les pompes vides, le trafic des voitures s'est arrêté. À Ottawa, au cours de sa visite d'amitié au Canada, c'est à cette même aide économique américaine que M. Truman a fait allusion dans le discours qu'il a prononcé devant le Parlement canadien. Nous avons l'intention d'aider les peuples qui sont décidés à se gouverner eux-mêmes et de la façon qui leur convient. Nous avons l'intention d'aider ceux qui cherchent à vivre en paix avec leurs voisins, sans exercer de pression sur les autres et sans se soumettre à des pressions étrangères, sans intimider les autres et sans se laisser intimider.
Voilà, Alain Aspect, 15 juin 1947, quelques archives du jour de votre naissance. Intéressant, vous ne trouvez pas d'écouter le président des États-Unis, Harry Truman, à l'époque? Ça tranche quand même considérablement avec Donald Trump aujourd'hui, non?
Oui, voulez-vous que je vous réponde? Vous avez bien sûr raison. Voilà, oui. Et les deux premiers commentaires mettent le doigt sur le fait que l'énergie était déjà et continue à être au cœur du fonctionnement des sociétés. Aujourd'hui, elle est d'une nature différente. C'est plus le charbon, mais l'énergie est toujours au cœur de notre fonctionnement.
Ouais. Bon, il y a encore un peu de charbon quand même, malheureusement, aujourd'hui.
Oui, mais enfin, la tendance est bonne, quand même.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, on a diminué considérablement la consommation de charbon. Même les Allemands ont fini par le comprendre.
Alain Aspect, vous naissez à Agen, mais c'est à une quinzaine de kilomètres de là que vous allez passer votre enfance, hein ?
Oui, à Stafford, petit village dont mes parents, où mes parents étaient instituteurs. J'ai donc vécu dans
Denise et Jean.
Exactement. Et, j'ai donc vécu là. C'était un village rural et j'étais... intéressé par tout ce qui était technique, et il n'y avait pas tellement de choses techniques, donc dès qu'il y avait un objet technique, j'étais intéressé à le voir. Le voisin était forgeron, et j'étais fasciné par la façon dont il travaillait le métal, il fabriquait, c'est lui-même qui fabriquait les fers pour les chevaux, etc.
Et très tôt, vous aviez cet intérêt-là, alors ?
Ah oui, ouais. J'ai eu très tôt cette fascination pour tout ce qui était technique. Ouais. Et ceci me permet de dire que, en fait, pendant très longtemps, je n'ai fait aucune différence entre sciences fondamentales et applications, parce que pour moi, tout ça était un tout. C'était la technique, la science et la technique.
Alain Aspect, votre copain Bernard, qui était dans la même classe que vous, du CP au CM2, raconte que vous avez été toujours l'élève le plus brillant. Donc le premier de la classe,
Ça, c'est pas vrai. Il était souvent devant moi. On faisait la cour. Oui, mais compétition amicale. On était très copains. Ouais. Non. Souvent, il était devant moi.
Bon, en tout cas, du CP jusqu'au prix Nobel, finalement, vous êtes assez constant, quand même.
Hein. Oui.
Bon, et vous êtes d'ailleurs le premier Lot-et-Garonnais à avoir inscrit votre nom au palmarès du prix Nobel.
Il y en a pas d'autres. Le premier d'Astafor aussi.
C'est plus facile. Il y a 1000 habitants, je crois, à Astafor.
2000
maintenant.
Oui.
Lorsqu'on est l'un des plus doués, en tout cas de sa classe, est-ce qu'on a envie de le rester toute sa vie ou pas, inconsciemment ?
Je crois que ça ne se présente pas du tout comme ça. Je crois que ce qu'on aime faire, c'est répondre aux défis qu'on vous pose, et on ne se demande pas si on va être le premier ou pas le premier, on se demande si on va tout à fait résoudre le problème.
Et des défis, vous en êtes posé vous-même d'ailleurs. Hein.
Oui, enfin, c'est plutôt mes professeurs qui m'en ont posé beaucoup. En particulier, mon fameux professeur de terminale, M. Hirsch, nous donnait des problèmes extrêmement difficiles. Et ça, vraiment, ça m'a motivé.
L'école dans laquelle enseignaient vos parents, à Stafford, porte votre nom maintenant ?
C'est un immense plaisir. On a donné mon nom à l'école où enseignaient mes parents.
Ouais, ça doit vous faire très plaisir quand même.
Mais bien sûr. Hein.
Votre maman, qui paraît-il, a été l'institutrice d'un autre petit garçon devenu célèbre, avec une moustache. Pendant longtemps d'ailleurs, Francis Cabrel. Voilà ce qu'il disait de vous le 26 janvier 2023, précisément à Astafort.
Depuis toujours, on apprend en fait ici. C'est une école. Moi, j'ai appris à lire et à écrire ici avec la mère d'Alain. Et donc, l'histoire continue de façon, on ne peut plus, magnifique, puisque le fils reçoit le prix Nobel. Si tu veux, j'ai appris avec la mère du prix Nobel de physique. J'étais très mauvais en physique et en mathématiques, mais bon, au moins, on est très fiers à Stafford d'avoir cette sommité parmi nous.
Donc c'est peut-être grâce à votre mère qu'il a écrit des chansons, finalement, Francis Cabrel.
Ah, c'est bien possible, parce que vous savez, les instituteurs de l'époque étaient polyvalents. Ils étaient aussi forts en français qu'en calcul, pour dire. Et donc, il n'y a aucun doute qu'ils insistaient beaucoup sur la capacité à écrire correctement les choses. Après, l'apprentissage de la poésie, c'est autre chose.
Bon, lui, il est nul en physique, c'est ce qu'il dit. Hein, mais ouais, chacun son truc, finalement.
Allez, je vais lui pardonner, parce qu'il est tellement gentil que la dernière fois où on s'est croisés, il m'a offert une photo de classe où il était avec ma maman. Ça m'a fait tellement plaisir.
Vous savez que vous pourriez le croiser aujourd'hui, Francis Cabrel, ici même, dans cette maison de la radio, d'ailleurs, Alain Aspect, parce qu'il sera ce soir, à 20h, pour l'Hyper Weekend Festival, avec une rencontre qui sera suivie d'ailleurs de la remise du prix des Voix du Sud. C'est son concours, issu des rencontres d'Astafort. Je voulais l'inviter d'ailleurs à vous faire un petit coucou ici en direct.
Ça aurait été une magnifique surprise.
Eh ben oui, mais malheureusement, il arrive qu'à 18h, donc c'était pas possible. Mais il pense bien à vous, et il sera donc ce soir à la Maison de la Radio. À quel moment est-ce que vous avez été mordu par le virus de la physique, Alain Aspect ?
Je crois que j'ai été mordu par le virus de la physique bien avant d'avoir fait de la physique. Je me rappelle explicitement que lorsque j'étais au lycée, attiré par tout ce qui ressemblait à de la science, et c'était essentiellement les mathématiques et puis les sciences naturelles, SVT aujourd'hui, ouais. Mais j'attendais avec impatience la classe de seconde, puisqu'on ne commençait la physique qu'en seconde. Je me rappelle explicitement que je disais à mes copains « Ah, vivement l'an prochain qu'on ait des classes de physique
ouais, ». Mais pourquoi vous êtes accroché par cette discipline en particulier alors ?
Parce que je pense que, alors c'est une analyse a posteriori bien sûr, ce qui m'intéresse dans la physique, c'est que c'est une explication rationnelle de phénomènes qu'on observe et qui sont parfois très surprenants. Et j'ai des souvenirs précis de ce qu'on appelait les leçons de choses, qui étaient faites par mon institutrice de cours moyen, dans lequel elle nous présentait quelque chose qui était très étonnant, et après il y avait l'explication derrière. Pour moi la physique c'est ça, on observe des phénomènes étonnants, et ensuite on trouve une explication rationnelle. Et je crois que c'est vraiment les instituteurs de l'école primaire qui m'ont donné le goût avec la leçon de choses, d'où l'intérêt des opérations comme la main à la pâte de l'Académie des sciences qui s'efforce de donner aujourd'hui aux professeurs ouais. des écoles des outils pour faire des leçons de choses.
Mais c'est fou parce que votre grande découverte qui vous avait eu le prix Nobel, c'est une leçon de choses aussi finalement. C'est une expérience en laboratoire que vous
absolument.
Avez menée jusqu'au bout. Quoi.
C'est un phénomène absolument stupéfiant. Et on a un formalisme mathématique pour le décrire, dont c'est pas de la magie noire, c'est quelque chose qu'on peut décrire de façon rationnelle, mais c'est stupéfiant.
Ouais. Est-ce qu'on peut tout expliquer avec la physique, a priori, ou pas ?
Alors, j'ai tendance à retourner l'affirmation et à dire que la physique, c'est le champ, la partie du monde que l'on peut expliquer par des mathématiques. Donc, par exemple, l'émotion poétique, certainement pas.
Après, justement, ces années de lycée, ben vous avez un parcours où vous rejoignez une classe préparatoire à Bordeaux, vous intégrez l'École normale supérieure de Cachan, vous décrochez une licence de physique en 67, vous devenez professeur agrégé de sciences physiques, et en 71, vous partez au Cameroun, à l'École normale de Yaoundé, où vous enseignez jusqu'en 1974. Ça veut dire que la recherche et l'enseignement, dans votre parcours, ça a toujours été intimement lié, en fait ?
Oui, avec des variations, parce que par exemple au Cameroun, il n'y avait aucune possibilité de faire de la recherche, et par contre, j'ai profité du temps passé au Cameroun, donc j'avais du temps libre, il n'y avait pas de recherche, j'ai appris la physique quantique quand j'étais au Cameroun, parce que j'ai eu une excellente formation, sauf en physique quantique, et donc je savais que j'avais une lacune, j'ai eu la chance de pouvoir me procurer le livre de Claude Coentanoudji, Bernard Dieu et Franck Laloé qui venaient de paraître, et j'ai appris la mécanique quantique de la page 1 à la page 1300 dans leur livre, ce qui fait que quand je suis revenu en France et qu'on m'a mis entre les mains le papier de John Bell, l'article de John Bell, ouais. j'ai été parfaitement capable de suivre tous les calculs quantiques qui étaient ouais. dans cet article.
Donc vous avez passé ces 3 années au Cameroun qui ont été fondamentales aussi finalement pour votre parcours, parce que vous avez mûri, cogité, ça a commencé quand même à...
Absolument, mais c'était aussi une expérience humaine tout à fait remarquable. On était quelques années après l'indépendance, il y avait une atmosphère d'optimisme. Avec mon épouse, qui est chimiste, nous formions les professeurs de physique et chimie camerounais. Et c'est une période tout à fait merveilleuse.
Ouais. Qu'est-ce qui distingue la physique traditionnelle de la physique quantique à l'aspect ?
Alors c'est toujours de la physique, puisqu'il s'agit de décrire des comportements étonnants qu'on observe dans le monde, mais il y a une difficulté que j'essaye d'affronter dans le livre pour vulgariser la physique quantique, c'est que c'est très difficile de faire des images dans notre monde. Mmh. Et donc, lorsque vous voulez décrire par exemple le mouvement d'une particule, ou d'un projectile. Vous le faites dans notre espace, d'accord ? Et je peux vous faire un dessin, je peux même vous dire, voilà la vitesse, je vais le décrire par un vecteur, parce que ça va me dire dans quelle direction, dans quel sens. En physique quantique, ça ne se passe pas comme ça. En général, en physique quantique, on décrit un objet, un système, par un objet mathématique abstrait qui s'appelle un vecteur dans un espace de Hilbert, mais ce n'est pas un vecteur au sens habituel, c'est un objet mathématique. Mmh. Et donc, vous avez cette évolution qui est parfaitement définie par les équations dans cet espace abstrait, mais il y a un moment, il faut se poser la question, oui, mais qu'est-ce que nous allons voir dans notre espace ? Et c'est là qu'est la grosse difficulté pour vulgariser la physique quantique, c'est-à-dire on ne peut pas se passer d'images. D'ailleurs, moi non plus, je ne peux pas me passer des images. C'est-à-dire que d'une part, je sais faire des calculs, mais il y a un moment où j'ai envie de me construire des images mentales.
Pour concrétiser les choses, justement
plutôt pour guider mon intuition. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai un phénomène connu, analysé, et que j'ai construit une image pour le décrire. Cette image va me donner des idées pour des choses qu'on n'a pas encore observées et dont je me dis, ah, si on faisait ça, peut-être que, là, je vais faire les calculs confirment que c'est une bonne idée et on va au laboratoire.
Donc ça vous aide à avancer dans votre cheminement, hein, c'est ça ?
Absolument.
Pour aboutir à...
Voilà, et j'essaye un petit peu de partager ça avec les lecteurs dans le livre.
Est-ce qu'Albert Einstein a été pour vous une figure de proue, même très jeune ou pas, Alain
Spray ? Très jeune, oui, mais au moment où j'ai commencé à travailler sur la physique quantique et où j'ai pris conscience du grand débat qu'il a eu avec Niels Bohr, j'ai eu la chance très tôt d'avoir accès à la traduction de ses articles de 1905 et puis toutes ces années qui ont suivi, et j'ai constaté qu'il avait joué un rôle extraordinaire dans l'émergence de la physique quantique, contrairement à ce qu'un certain nombre de mes collègues me disaient, mais enfin, tu sais bien qu'Einstein n'a jamais rien compris à la physique quantique. D'ailleurs, Bohr a répondu à tous ces arguments, et en fait, ce n'est absolument pas vrai, ça fait partie des choses que je raconte dans le livre, comment de 1905 à 1925, Einstein a été sans doute le physicien qui a le plus compris l'impact des nouvelles idées quantiques.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Les questions d'Einstein sur l'intrication et ce que cela implique pour l'inachèvement de la mécanique quantique reste sans réponse jusqu'aux années 60, lorsqu'un physicien de l'Irlande du Nord effectue une percée stupéfiante. John Bell. Bell soutient que les questions d'Einstein vis-à-vis de la mécanique quantique n'ont pas été résolues.
Il défendait fermement ses positions auprès de ses professeurs. Ne nous dites pas que Bohr a tout résolu, on doit y réfléchir.
La mécanique quantique était une réussite exceptionnelle. C'est donc très étrange que les fondations de ce succès incontestable soient basées sur tous ces doutes.
Extrait d'un documentaire de Science et Vie TV, La Voix du Physicien, John Stuart Bell, qui est Alain Aspect, le premier scientifique que vous citez dans votre ouvrage, Si Einstein avait su, chez Odile Jacob, parce qu'en 1975, vous débarquez dans son bureau du CERN à Genève avec un projet ambitieux qui consiste donc à trancher un débat entre Niels Bohr et Albert Einstein. Pourquoi vous vous adressez à John Bell alors exactement ?
Je veux aussi dire que c'est le premier scientifique que je nomme dans le discours que je fais à Stockholm au moment où je reçois le prix Nobel, parce que je pense que c'est lui qui est le héros de cette histoire. Donc pourquoi je vais le voir ? Parce que j'ai lu son article, et son article est incroyable, parce que d'une part, il présente le calcul quantique avec un résultat absolument convaincant, et puis de l'autre côté, il donne le raisonnement d'Einstein qui conduit à un résultat différent, une conclusion différente, et donc on se dit, eh bien, puisque les conclusions sont différentes, il y a moyen de faire une expérience et de trancher entre les deux, et trancher entre deux raisonnements impeccables par ces deux géants de la physique que sont Einstein et Bohr, quel projet fascinant.
Mais l'article est de 64, c'est-à-dire que personne n'avait pensé avant ?
Si, en 1969, il y a des physiciens qui ont dit « voilà l'expérience qu'on pourrait faire pour répondre à l'article de John Bell ». Ça va donner lieu à l'expérience de Clauser et Friedman en 1972, une autre expérience à Harvard qui donnait un résultat opposé. Et moi, en 1974, de retour du Cameroun, je prends connaissance de l'article de Bell qui me fascine et du fait qu'il y a déjà deux expériences. Or, je meurs d'envie de travailler dans ce sujet. C'est le sujet le plus extraordinaire qu'on m'ait jamais montré. Et je lis et je relis en détail l'article de Bell et je vois que Bell, à la fin de son article, dit « il y a vraiment une expérience qu'il faudrait faire, c'est une expérience dans laquelle on changerait le réglage des appareils de mesure entre le moment où les photons quittent la source et le moment où ils arrivent. » Et là, on n'a pas beaucoup de temps. On a 20 milliardièmes de secondes, il faut aller vite. Ouais. Mais je me dis, je suis fort en optique, je vais trouver un moyen de le faire.
Donc ça, c'est les particules de lumière. Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous lisez l'article de ce scientifique John Bell en 64 ? Parce que vous dites, je suis fasciné, mais votre description, c'est quasiment physique, en fait.
Eh bien, encore une fois, le raisonnement qui est fait par la physique quantique en suivant le point de vue de Bohr est absolument impeccable, et le raisonnement qui est fait en suivant le point de vue d'Einstein est absolument impeccable, et pourtant les conclusions sont opposées. Et ça, c'est pas possible. Comme je vous ai dit, moi, je crois qu'on a une explication rationnelle du monde dont il va bien falloir trancher.
Ouais, donc il faut trancher, et ça vous excite terriblement, en fait.
Ah oui, absolument.
Vous êtes pris dans le truc, vous dites c'est pour moi.
Je me dis c'est pour moi, et je veux absolument trouver quelque chose à faire en plus que ce que Clauser a déjà fait, parce qu'il ne s'agit pas simplement de répéter l'expérience de Clauser. Il faut faire quelque chose
tant qu'à faire. Sujet considéré sans intérêt quand même par la plupart des physiciens, non ?
Oui, alors la raison, elle n'est pas déraisonnable. C'est que la plupart des physiciens ont entendu parler du débat du Congrès Solvay. Et
1927.
Comme 1927, et comme on l'a entendu tout à l'heure, au Congrès Solvay, Einstein arrive avec des objections et à chaque fois, Bohr répond de façon convaincante, rationnelle, avec des arguments de physique. Et la plupart des gens n'ont pas réalisé qu'il y a eu un deuxième échange entre Einstein et Bohr, cette fois-ci non pas oralement mais par article scientifique interposé en 1935. Et là, dans cet échange, la réponse de Bohr n'est pas du tout un raisonnement scientifique incontestable que tout le monde peut accepter, c'est basé sur une philosophie différente du monde. En deux mots...
Donc c'est une question de philo en fait hein.
D'épistémologie, la façon dont se représente le monde. Pour faire bref, Einstein pense qu'un objet a un ensemble de propriétés qu'on va appeler sa réalité physique et que ces propriétés sont indépendantes de la façon dont j'observe l'objet. Alors que Bohr, lui, il pense que la réalité physique ne peut être définie correctement que si je précise quel est l'appareil de mesure qui va me permettre d'observer l'objet. Et vous voyez, ça c'est un débat épistémologique. Si vous adoptez le point de vue d'Einstein, vous êtes convaincu par Einstein, et si vous adoptez le point de vue de Bohr, vous êtes convaincu par la réponse de Bohr. Et les gens ne savent pas ça, et donc ils pensent, voilà, on sait bien que Bohr a répondu à Einstein, circuler, il n'y a rien à voir, c'est pourquoi perdre son temps ? De toute façon, la mécanique quantique marche magnifiquement bien.
Elle est suffisamment excitante, oui.
Voilà.
On va écouter un extrait des grandes énigmes de la science sur France 2 en 2001, justement autour de cette battle entre Einstein et Bohr.
Stop Niels, ça ne va plus. J'ai trouvé la faille dans vos équations.
Dites toujours.
Imaginez une expérience. Je prends deux particules jumelles. Je les sépare qui sont des 10 km. Eh bien, Niels, selon votre mécanique quantique, elles se comporteront comme si elles n'étaient pas séparées. Ce que fera l'une, l'autre le fera instantanément.
Vous avez raison.
C'est absurde, Niels. Ce qui est séparé n'est pas uni. Et ce qui est uni n'est pas séparé. C'est la preuve que vos équations ne disent pas tout.
Absurde, oui, cher Albert. Mais seulement dans notre monde, celui de la mécanique ordinaire. Pas dans le monde des particules, celui de la mécanique quantique.
Ah !
Voilà, c'est une fiction évidemment, hein. C'est pas les
je voix connaissais pas du tout
des vrais protagonistes, mais c'est les grandes énigmes de la science sur France 2. Qu'est-ce que ça donne, deux esprits aussi brillants qui s'affrontent à l'aspect sur le ring de la physique ? Parce qu'il faut imaginer, hein, ce congrès Solvay de 1927, les témoignages le racontent, ce sont des joutes intellectuelles de très haute volée quand même.
Oui, mais empreinte de respect mutuel. Hein. Ouais. Il est clair, tous les témoignages montrent qu'il y avait un immense respect mutuel,
mais
comme vous dites, c'est une confrontation intellectuelle, que dire de plus ?
Vous auriez aimé vous retrouver dans ces discussions ?
Je pense que j'aurais modestement écouté avec admiration.
C'est vrai ? Vous avez imaginé vous retrouver au milieu de ces échanges ?
Évidemment
vous
pas.
Vous qui parlez à Einstein ?
Évidemment pas.
Ouais. En tout cas, vous le dites, hein, ce débat entre Niels Bohr et Albert Einstein s'est poursuivi jusqu'en 1935, au moment même où il va culminer, et s'arrêter aussi ? En 35, ça s'arrête ou pas ?
Non, ça s'arrête pas du tout. Tous les témoignages montrent qu'ils n'ont pas arrêté de débattre de ça. Il y a même, je n'ai pas vérifié l'information, mais je l'ai lu dans un article crédible, on dit que lorsque Niels Bohr est décédé dans une nuit en 1962, Einstein était déjà mort depuis plusieurs années, eh bien on dit qu'au petit matin, on a trouvé des papiers de Niels Bohr où, une fois de plus, il alignait des arguments pour répondre à l'article d'Einstein de 1935. Donc c'est un débat qui n'a jamais été tranché entre eux, encore une fois, parce que ça dépend de la position philosophique. Si vous avez la position philosophique d'Einstein, vous n'avez aucune raison d'accepter ce que vous dit Bohr.
Est-ce que John Bell, lui, il était d'un côté ou de l'autre entre Einstein et Bohr, il avait une petite idée quand même ?
Alors, je pense que John Bell, même on a quelques preuves de ça, John Bell aurait aimé qu'Einstein ait raison et que l'on puisse compléter la mécanique quantique. Il y a d'ailleurs un épisode extrêmement intéressant, c'est qu'il existait dans la littérature un théorème, dit théorème de von Neumann, où von Neumann pensait avoir démontré, von Neumann, immense savant, il pensait avoir démontré qu'on ne pouvait pas compléter la mécanique quantique. Et John Bell est convaincu qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la preuve de von Neumann, et il trouve la faute. Et donc là, il se réjouit, Bell. Il dit « Ah, Einstein avait raison, on peut compléter la physique quantique. » Mais il a tellement creusé le sujet en essayant de réfuter la preuve de von Neumann, de réfuter avec succès, que d'un seul coup, il trouve son théorème qui dit « Eh non, il n'y a pas moyen de compléter la physique quantique en suivant les idées d'Einstein. »
Le théorème de Bell.
Voilà.
Et donc 1964, vous l'avez dit, cette période, cette date qui permet de comprendre qu'Einstein a mis le doigt sans le vouloir sur une propriété quantique extraordinaire, l'intrication. Dans l'univers quantique, c'est évidemment compliqué à comprendre pour des esprits qui aimeraient que tout soit clair. Et enfin là, on est contre l'intuition quasiment avec cette histoire.
Oui.
Parce que deux particules séparées spatialement peuvent néanmoins constituer un système inséparable.
Oui. Si vous me donnez deux minutes...
Ah ben je vous les offre avec grand plaisir.
Je peux vous expliquer en quoi c'est stupéfiant. Les deux particules s'éloignent, elles sont loin l'une de l'autre. Dans mon expérience, 6 mètres d'un côté, 6 mètres de l'autre. Vous faites une mesure sur la première particule, le résultat a l'air totalement aléatoire. Vous faites une mesure sur la deuxième, le résultat a l'air totalement aléatoire. Mais si vous prenez un peu de recul, vous voyez que les résultats sont corrélés, c'est-à-dire ils sont identiques. Il y a un exemple que j'aime bien. Vous prenez une machine qui distribue des pièces de monnaie, une à gauche et une à droite. On lance la pièce de monnaie vers le ciel, on regarde... pile d'un côté, pile de l'autre. Au coup d'après, face d'un côté, face de l'autre. Alors si vous n'avez que le nez sur une pièce de monnaie, vous dites c'est totalement aléatoire. Mais si vous prenez du recul et que vous regardez les deux, vous dites les résultats sont totalement corrélés. Et là, moi je suis physicien, je dis il y a un truc et je veux comprendre le truc. Le truc, c'est une loi physique. Et donc, pour comprendre le truc, eh bien... prenez l'exemple que je viens de vous donner. Il me semble que l'image raisonnable que vous allez construire, c'est que la machine truc, elle fabrique des pièces avec deux piles, et elle envoie une pièce avec deux piles d'un côté, une pièce avec deux piles de l'autre, puis au coup d'après, deux faces, etc. Et là, on est au cœur du raisonnement d'Einstein, parce qu'Einstein dit, pour que les résultats soient corrélés à distance, il faut que dès le départ, il y ait une propriété partagée entre les particules. Et ce que Bell démontre, c'est que ce modèle où on admet que dès le départ, il y a une propriété partagée, eh bien ce modèle ne permet pas d'être en accord avec toutes les prévisions de la physique quantique.
Donc vous départagez Einstein et Bohr avec les travaux de Bell et l'expérience que vous allez mettre au point est conduite entre 1975 et 1982 à l'Institut d'Optique d'Orsay. Comment on imagine une telle expérience? Parce qu'évidemment, elle n'existe pas, il faut la construire. Tout était clair dans votre tête ou c'est venu au fil des années?
Alors d'abord, c'est pas vrai que rien n'existait. Il y avait l'expérience de Clauser et Friedman. Je dispose de la thèse de Friedman. Et donc, je vois les difficultés auxquelles ils se sont affrontés. Ouais. Et je vois ce que je peux emprunter à leur expérience. Et donc, mon travail, ça va être d'utiliser les progrès de la technique, en particulier pour créer une source de paires de photons intriqués qui est incroyablement meilleure que la leur. Pourquoi? Parce que eux, pour exciter les atomes qui finalement envoyaient les paires de photons intriqués, si j'ose dire, ils tapaient un peu dans le tas. C'est-à-dire, il y avait une lampe ultraviolet qui excitait les atomes, et puis ça se débrouillait. De temps en temps, ils avaient la paire de photons qu'ils voulaient, et souvent, tout à fait autre chose. Et moi, je bénéficie des progrès sur la physique des lasers. Je bénéficie d'une découverte qui a été faite, en particulier en France, dans le groupe de Bernard Cagnac, sur ce qu'on appelle l'excitation à deux photons. Et en utilisant deux lasers, j'arrive à exciter les atomes exactement dans le niveau où l'atome n'a plus le choix. Tout ce qu'il peut faire, c'est me donner les deux photons dont j'ai besoin. Donc, un travail qui me prendra 5 ans pour créer cette source. Mais lorsque j'ai cette source, elle est infiniment meilleure que les sources précédentes.
Et la stabilité de votre dispositif rassurée par du sable, recueilli à la pelle, mis dans des tonneaux ouverts pour absorber les vibrations. Parce qu'il faut que ce soit stable, toute cette histoire.
Exactement.
Alors, donc, c'est archi méticuleux.
Voilà. Alors, oui, il faut penser à tout. Et le point, c'est que quand je pense à tous les détails, quelquefois on me dit c'est du bricolage. D'abord, j'ai rien contre le bricolage. Mmh. Mais ce bricolage en permanence est guidé par ma compréhension des lois de la physique. C'est parce que je sais comment les vibrations se propagent dans le sable ou dans un métal que je choisis le sable.
Mmh. Vous montrez à l'aspect à quel point d'ailleurs les échanges avec vos collègues d'autres labos ont joué un rôle majeur aussi dans votre découverte, ce qui vous donnera donc le prix Nobel. Ça a été essentiel aussi?
Ça a été absolument essentiel parce que quand je démarre cette expérience... je ne connais aucune des techniques dont j'aurais besoin et très peu de ces techniques sont connues à l'Institut d'Optique. Je vais donc être obligé d'aller demander, je dis, j'ai besoin d'un laser accordable. Je vais dans le laboratoire, le seul laboratoire à Paris où il y a un laser accordable, je leur demande, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on fait, comment ça marche? Et là, on me dit, mais pourquoi tu veux un laser accordable? Et là, j'explique mon affaire. Et la première réponse est, mais enfin, tu sais bien que Bohr a répondu à Einstein, donc pourquoi tu perds ton temps à vouloir faire une expérience comme ça? Ouais. Et là, je sors mon arme qui consiste à dire, tu me donnes 15 minutes? Oui. Et en 15 minutes, j'explique le théorème de Bell, et en 15 minutes, l'interlocuteur me dit, mais c'est vraiment très intéressant ton affaire. Ouais. Et je dis, oui, c'est pour ça que je fais une expérience. Et là, je repars en général avec du matériel qu'on me prête.
Et vous n'avez jamais douté un aspect sur votre démarche, hein? Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, bah, ils ont peut-être raison, mes collègues, je perds mon temps, ça va prendre un temps infini, je ne vais jamais y arriver.
Alors, vous auriez raison si j'étais resté isolé dans mon coin. Mais l'expérience que je viens de vous raconter se reproduit souvent. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai face à moi quelqu'un qui veut bien m'écouter...
Il est convaincu.
J'arrive à le convaincre. Donc à partir de là, quand même, ça m'encourage.
Et puis une nuit se déroule l'expérience décisive. On en parle dans un instant. Alain Aspect, vous êtes notre invité au carré, évidemment.
Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Le visage de la France qui gagne aujourd'hui, c'est celui-ci. Alain Aspect vient de remporter le prix Nobel de physique avec deux autres chercheurs. Il est récompensé pour ses travaux pionniers sur la mécanique quantique. Alain Aspect a 75 ans, bravo à lui.
Alors, grande surprise, grand bonheur. Je pense à mon professeur de physique de terminale, Monsieur Hirsch, qui m'a donné vraiment à la fois le goût de la physique, mais aussi des méthodes, je ne plaisante pas, des méthodes que j'ai gardées pour toute ma carrière.
Voilà, et le visage de la France qui gagne est au micro de la Terre au carré aujourd'hui. Alain Aspect, prix Nobel de physique donc en 2022, et Monsieur Hirsch que vous évoquez tout le temps. Vraiment, il vous a marqué, hein, cet enseignant.
Ah oui, il m'a absolument marqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, les instituteurs des leçons de choses et Monsieur Hirsch.
Vous racontez dans votre livre cette nuit où se déroule enfin l'expérience décisive. Nous sommes donc en 1982, en plein hiver, il est 4h du matin, et là, ça y est, les résultats sont convaincants, après des années, hein.
Oui, absolument. Donc, dans cette dernière phase, une fois la manip prête, cette manip a été montée essentiellement avec deux ingénieurs, Gérard Roger, qui était un spécialiste d'optique et de mécanique, et André Villing, qui était un spécialiste d'électronique. Là, on met au point la manip, et il y a le moment où on va se diriger vers la prise de résultats, et là, j'ai besoin d'avoir des interlocuteurs qui sont des physiciens, et j'ai la bonne idée de proposer des stages, et j'ai deux stagiaires qui arrivent. Ces deux stagiaires vont se révéler dans le reste de leur vie des physiciens absolument merveilleux, mais à ce moment-là, on ne le sait pas. Ouais. Mais le fait qu'ils aient choisi de venir sur cette expérience prouve quand même qu'ils ont été intéressés par le sujet. Il y a Philippe Grangier, il y a Jean Dalibard, hein, qui sont aujourd'hui devenus des stars de la physique quantique. Et donc, on va observer ce résultat. Et je me rappelle très bien, parce que vous savez, quand on fait des expériences comme ça, les données s'accumulent. Et au fur et à mesure de l'accumulation des données, les résultats sont de plus en plus précis. Et donc, Philippe Grangier, là, il dit « Ah, ça a l'air d'être du côté de la violation des inégalités de Bell, mais c'est pas encore clair. » Puis à un moment donné, il dit « violation par un écart-type bon, ». Après, ouais. « violation par deux écart-types ». Il annonce comme ça, et au bout d'un moment, on sait que ça y est, quoi.
Donc vous établissez de manière irréfutable le phénomène d'intrication quantique dont on parlait. Hein. Ces photons avec...
Le fait que même à distance, on a l'impression qu'ils restent liés par un lien un peu mystérieux quand je cherche à le représenter dans mon espace. Parce qu'encore une fois, si je fais le calcul dans l'espace abstrait de la physique quantique, c'est parfaitement clair, mais si je cherche à me le représenter dans mon espace, or mon expérience, elle est quand même dans mon espace. J'ai un appareil à gauche, un appareil à droite, c'est pas abstrait ça. Ouais. Et tout se passe comme si les deux photons restaient liés.
Donc vous violez les inégalités de Bell et vous réfutez la position d'Einstein en même temps, s'il vous plaît.
Oui, enfin, c'est strictement équivalent, puisque si on prend le point de vue d'Einstein, le point de vue réaliste local, c'est-à-dire chaque objet porte en lui l'ensemble des paramètres qui vont déterminer le résultat de la mesure. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous voulez comprendre la corrélation, il faut dire que c'est dès le départ que les deux particules avaient cette propriété. Eh bien, ce que démontre, dans une certaine mesure, l'expérience de Clauser, et encore plus clairement la mienne, c'est que non, pas du tout, cette propriété, elle ne l'avait pas dès le départ, c'est au dernier moment, au moment où on fait la mesure, d'un seul coup, tac, on a le résultat.
Et là, vous ressentez quoi dans cette nuit de 1982? C'est vertigineux après cette année de travail
Je pense que ma première réaction, c'est de dire « Ah là là, la physique quantique, la bête se défend bien contre toutes les attaques. » Et une espèce de stupéfaction, une fois de plus, la physique quantique a
gagné, oui, c'est ça. Ouais. Et donc, vous appelez votre femme, oui. Annie, qui est chez vous, donc il est tard, évidemment, dans la nuit, et elle vous rejoint donc au laboratoire avec du sauterne et du foie gras, et ben, vous célébrez ça, parce que c'est quand même un événement.
Je pense qu'elle n'est pas fâchée du tout que je l'ai réveillée, parce qu'elle en a tellement marre.
Elle se dit, ça va se terminer, c'est ça qu'elle fait, en fait.
Enfin, quoi. Et donc, voilà.
Vous avez pensé à Einstein cette nuit-là, ou pas? Parce que vous en avez le souvenir.
Non, j'ai pas de souvenir précis, c'était il y a tellement longtemps, c'était il y a 40 ans.
Et le jour suivant, vous faites quoi? Vous répétez l'expérience?
Ah, d'abord, on accumule des données pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Et puis, je reprends, entre guillemets, le train-train. Je vous rappelle que je suis enseignant-chercheur. Donc, plusieurs jours par semaine, je vais à l'École normale supérieure de Cachan pour enseigner auprès d'étudiants qui sont extrêmement exigeants, parce que c'est des étudiants qui veulent passer à l'agrégation. Et je peux vous dire que ceux-là, ils attendent beaucoup de vous.
Ouais, mais vous vous dites quoi? Ça pourrait me valoir un prix Nobel?
Ah non, absolument pas. Non, absolument pas. En fait, j'ai pris conscience de l'impact de ce que j'avais fait un an plus tard, lorsque je soutiens ma thèse. Parce qu'à ma surprise, et je pense à la surprise de tout le monde, il y a la foule pour rentrer dans l'amphithéâtre de l'Institut d'Optique où je vais soutenir ma thèse. Les gens restent dehors et sont obligés de repartir. Et là, je suis absolument stupéfait. Je ne pensais pas que le sujet avait diffusé suffisamment pour qu'il y ait tant de gens intéressés à entendre parler de ce résultat.
Donc, 82, vous écrivez l'article pour présenter vos résultats et vous soutenez votre thèse ensuite.
En 1983, parce que, encore une fois, je suis enseignant, donc je me lève le matin à 4h ou à 5h pour écrire ma thèse et ça me prend du temps.
Donc, les photons, les intrications, tout ça, c'est fini ou pas?
Alors, ça va être fini quelques années plus tard. On va avec Philippe Rangier, donc, qui avait été mon stagiaire et qui maintenant est venu avec moi pour être mon premier thésard. On détourne un peu la source que nous avions développée pour faire des paires de photons, et ça nous permet d'émettre les photons un par un. Or, croyez-le ou pas, jusqu'à cette date-là, personne n'était capable d'émettre les photons un par un. Nous arrivons à émettre les photons un par un, et nous allons démontrer une autre propriété fondamentale de la physique quantique, qui est d'ailleurs l'objet de la première révolution quantique, et c'est la dualité en deux particules. On va pour la première fois la mettre en évidence directement. C'est la thèse de Philippe Grangier avec ses photons uniques. Et ensuite, je tourne la page et les photons, c'est fini. Philippe Grangier part postdoc aux États-Unis et moi, je pars rejoindre Claude Coentanucci à l'École normale supérieure pour travailler sur la manipulation d'atomes avec des lasers.
Alain Aspect, quelles sont les applications potentielles de l'intrication? Comment on peut utiliser ces propriétés concrètement? Il y en a des applications?
Alors, il y a des applications proposées. Quelques-unes qui commencent à marcher, mais on est très très loin.
Lesquelles, par exemple?
Alors, la cryptographie quantique fonctionne. La cryptographie quantique, c'est une méthode pour échanger des informations de façon absolument certaine, et avec une différence considérable par rapport aux méthodes cryptographiques classiques, la différence est la suivante. En cryptographie classique, la sécurité repose sur l'hypothèse que votre adversaire n'a pas des moyens technologiques considérablement supérieur au vôtre. Par exemple, il n'a pas des ordinateurs 1000 fois plus puissants, ou bien il n'a pas trouvé un théorème mathématique que vous ignorez et qui permettrait, par exemple, de factoriser de façon efficace les nombres. Donc, votre sécurité repose sur l'idée que l'adversaire n'est pas considérablement plus avancé que vous. En cryptographie quantique, la sécurité repose sur l'idée que les lois de la physique sont bonnes, de la physique quantique sont bonnes. Alors peut-être qu'un jour elles seront dépassées, mais jusqu'à preuve du contraire, la bête, comme je le disais, se défend bien, elle continue à avoir raison. Alors ça, c'est un exemple. Je peux vous citer un deuxième exemple qui a l'air naïf, mais qui en fait est extrêmement important. Avec des photons intriqués, comme je vous l'ai dit, j'ai démontré que jusqu'au dernier moment, ça peut être aussi bien un résultat que le résultat opposé. Ça, c'est un générateur de nombres aléatoires parfait. Parce que si vous réfléchissez, on a énormément besoin de générateurs de nombres aléatoires pour la sécurité, pour des calculs mathématiques qu'on appelle Monte Carlo, etc. Et un bon générateur de nombres aléatoires, c'est quoi ? C'est un appareil, c'est une boîte dont même l'ingénieur qui a construit la boîte ne connaît pas le résultat qui va sortir. Il faut que personne ne puisse prédire le résultat qui va sortir. Eh bien, précisément avec les particules intriquées, on sait que le résultat va être totalement aléatoire, sinon on ne violerait pas les inégalités de Bell. Voilà une application qui marche.
L'ordinateur quantique, c'est un serpent de mer ou nous y sommes, puisque vous travaillez sur cette question ?
C'est une magnifique idée, extrêmement difficile. Il y a donc de nombreux groupes de recherche au meilleur niveau dans le monde qui travaillent sur le sujet, dont en particulier mon ancien étudiant Antoine Broès, qui a une magnifique version d'un ordinateur quantique à la phase actuelle à l'Institut d'Optique. Et puis vous avez par ailleurs déjà un nombre élevé de start-up qui essayent de fiabiliser les expériences qui sont dans les laboratoires. Par exemple, la start-up Pascal essaye de reproduire l'ordinateur quantique d'Antoine Broès, mais pour le mettre à la disposition des mathématiciens. Le mathématicien, il n'a pas envie de tourner les boutons. Il faut qu'il y ait un appareil qui marche tout seul. Vous avez aussi la société Candela, qui, quelque part, s'inscrit dans la lignée des expériences qui avaient été faites avec Philippe Grangier sur les photons uniques.
Mais ça pourrait servir à quoi, l'ordinateur quantique ?
Ah ben, si l'ordinateur quantique tient ses promesses, on aura ce qu'on appelle l'avantage quantique. Avantage par rapport à quoi ? Par rapport aux ordinateurs actuels. Et cet avantage quantique, on peut le décliner de deux façons. On peut dire qu'il sera capable de faire des calculs qui sont inaccessibles à l'ordinateur actuel parce qu'il faudrait des décennies, il faudrait les faire tourner par des décennies et vous pourrez faire le calcul en quelques minutes. L'autre face de l'avantage quantique, ce serait faire des calculs accessibles aux plus gros calculateurs actuels, mais en dépensant beaucoup moins d'énergie. Et vous avez conscience, c'est un véritable enjeu puisqu'on entend qu'avec l'intelligence artificielle, il est question que les sociétés achètent des réacteurs nucléaires pour arriver à fournir l'électricité dont ils ont besoin.
Il y a des enjeux énergétiques majeurs, absolument, évidemment, et versus climat, hein, parce qu'évidemment tout ça est extrêmement lié. Ça vous intéresse la question climatique, l'écologie au travers de ces travaux, Alain Aspect ? Vous n'alliez pas échapper à cette question évidemment avant de partir ?
Alors, ça m'intéresse, mais j'ai envie de la présenter de notre point de vue, un petit couplet sur ce qu'est la méthode scientifique. La méthode scientifique, elle repose, et je vais venir au climat.
Oui, parce que vous bottez en touche là.
Pas du tout, je vais y venir. La méthode scientifique, elle va en deux étapes. Première étape, le doute. Une hypothèse est lancée. Elle est importante, les scientifiques discutent entre eux, ne sont pas nécessairement d'accord, mais ils vont obtenir un consensus. Et à un moment donné, le consensus est obtenu, et à ce moment-là, on a une quasi-certitude et on construit là-dessus. Eh bien, je reviens au climat.
Oui, s'il vous plaît.
Dans les années 1990, il y avait un débat pour savoir si le réchauffement climatique qui avait déjà été observé était dû ou pas à l'activité humaine. Le consensus entre tous les grands laboratoires de météorologie du monde s'est établi vers la fin des années 90. Oui, si on ne prend pas en compte l'activité humaine, on ne peut pas rendre compte du réchauffement climatique. Et à partir de là, le rôle de l'activité humaine dans le réchauffement climatique est établi. Il faut donc faire quelque chose.
Alain Aspect, merci beaucoup. Je renvoie sur cet ouvrage « Si Einstein avait su », vous qui avez reçu le prix Nobel de physique en 2001, avec la figure d'Albert Einstein, évidemment, en couverture.
Oui, et je raconte toute l'histoire un peu plus en détail que ce dont nous venons de parler.
Merci d'être venu au micro de la Terre au Carré. Cette émission a été préparée par Anna Massardier. Et puis, vous parliez de l'importance des stagiaires, Alain Aspect. Bien, figurez-vous que nous, on a une stagiaire qui s'appelle Solène Marsay, qui a été en stage avec nous pendant 5 mois et qui s'est occupée brillamment des réseaux sociaux de la Terre au Carré, sous la houlette de Jean-Philippe Véret, et qui s'en va aujourd'hui. Donc c'est toujours un moment émouvant, parce qu'on l'a beaucoup apprécié, et je la remercie très chaleureusement pour son travail au sein de l'équipe. La porte de la Terre au Carré lui reste évidemment grande ouverte. Le répondeur.
Joël Aix-en-Provence, je voulais intervenir sur l'émission sur l'industrie alimentaire dans la restauration et dans les restaurants scolaires. J'étais professeur de cuisine, nous avons vu arriver les industriels de l'agroalimentaire nous vendre leurs produits déjà élaborés ou semi-élaborés, en surgelé. Par exemple, les fonds de cuisine, on n'avait plus le droit de faire au nom de l'hygiène les fonds de cuisine. Et par contre, c'était beaucoup plus facile d'utiliser les fonds industriels. En parallèle, on a vu diminuer le temps de formation des élèves, c'est-à-dire qu'on passait d'un CAP 3 ans, à un CAP 2 ans. On leur demandait juste de savoir lire ce qu'il y avait sur les notices des produits industriels, des cuisiniers qui sont là pour remettre en température, légèrement améliorer les produits industriels qu'on leur donnait, et c'était tout. Je vous souhaite une bonne journée.
Josiane de la Drôme, Livron-sur-Drôme. Bonjour la Terre au carré. Alors moi, je voudrais partager avec les auditeurs la sortie d'un film génial. Il s'appelle « L'usage du monde, voyage entre nature et culture ». C'est un documentaire qui parle de notre rapport à la nature, au vivant, de la préhistoire jusqu'aux luttes écolo d'aujourd'hui. On y croise des archéologues, préhistoriens, philosophes, anthropologues, mais aussi bien sûr les gens du terrain, des paysans, des militants. Et on comprend au fur et à mesure comment le récit façonne notre culture et qu'il y a urgence de passer de la domination de la nature à une alliance avec elle. L'usage du monde, voyage entre nature et culture. À bientôt la Terre au carré.
Bonjour, Nadège du collectif citoyen JOP 2030. J'habite à Gap dans les Hautes-Alpes. Mercredi dernier, vous avez fait une très belle émission sur la raréfaction de la neige en montagne. La baisse d'enneigement et le réchauffement climatique sont parmi les problèmes majeurs de la candidature des Alpes françaises à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030. Notre collectif travaille depuis des mois sur les volets juridiques et institutionnels du dossier. Nous contestons ce projet des Jeux Olympiques de 2030 dans les Alpes françaises par différents moyens, dont l'action en justice. Aujourd'hui, le contrat hôte olympique n'est pas signé. Nous pouvons renoncer maintenant à cette candidature olympique déraisonnable. Vous pouvez nous contacter par mail ou sur le site d'Attaque05. Merci pour vos émissions. Au revoir.
Et merci beaucoup pour vos messages sur le répondeur de la Terre au carré. Bien sûr, vous nous appelez pendant le week-end si vous le souhaitez. 01 56 40 45 45 pour nous laisser vos messages que nous diffuserons bien sûr à partir de lundi. Merci à David Leprince qui était à la réalisation, Fabrice Desmaz qui était aux commandes de la technique aujourd'hui. Lundi dans l'émission La naissance du système solaire.